On attribue à Dieu des tas de qualités différentes, comme l'amour, la justice, le pardon, la miséricorde, la paix ou la vérité. Tout cela est bien, mais le problème, c'est que la plupart de ces choses semblent absolument incompatibles. En effet, le pardon, ce n'est pas la justice, puisque la justice voudrait que le coupable paye, et le pardon est donc par définition injuste. L'amour n'est pas la vérité, puisque l'amour consiste à regarder l'autre, non pas pour ce qu'il est vraiment, mais comme on croit qu'il est ou comme on aimerait qu'il soit. La vérité, c'est souvent que l'autre a des torts, qu'il n'est pas aimable, et pourtant on l'aime contre la vérité. Et de même, la justice n'est pas la paix, puisque la justice, c'est la querelle, la justice, c'est la rétribution, la justice, c'est le procès, alors que la paix est justement tout à fait contraire à tout cela. Et donc, c'est très difficile d'arriver à voir comment en Dieu peuvent s'accorder la justice et la paix, l'amour, la miséricorde et la justice. Aujourd'hui, la tendance actuelle arrive à résoudre le problème d'une façon assez simple, puisque la plupart de nos contemporains, finalement, font un petit peu l'impasse sur la question de la justice. Et on croit, en général, dans un Dieu qui est 100% miséricorde, dans un Dieu qui est amour. Et la plupart des prédications chrétiennes, aujourd'hui, proclament que Dieu pardonne tout et tout le monde, de toute manière. Le problème, c'est d'abord que cette impasse faite sur la justice, voire même sur la rétribution, semble être faux par rapport à l'Évangile. En effet, dans l'Évangile lui-même, même s'il est proclamé un Dieu de grâce, néanmoins, il y a souvent des choses qui nous poussent dans le sens d'une rétribution. Même Paul, qui est pourtant ce grand apôtre de la grâce et du pardon, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, nous dit que nous sommes convoqués devant le tribunal du Christ pour rendre compte de nos œuvres, du bien et du mal que nous aurions fait. Et même dans l'Évangile, il y a de nombreux passages où le Christ montre que certains seront rejetés, nous place devant une sorte de jugement, comme le mauvais serviteur de la parabole des talents qui est jeté dans les ténèbres du dehors, comme dans cette même parabole de Luc, où les mauvais sujets, le maître qui est Dieu dit « égorgez-les en ma présence ». Il y a les vierges folles qui n'ont pas su attendre l'époux et qui restent dehors à tambouriner sans que l'époux accepte de leur ouvrir sa porte, etc., etc. Et donc, ne prêcher qu'un Dieu, je dirais, qui accepte tout, qui pardonne tout, est d'une certaine façon un petit peu faux et décalé par rapport à l'Évangile. Et puis d'autre part, je crois que cette prédication moderne nous donne l'image d'un Dieu mou, qui semble tout accepter, pour qui tout est égal, une sorte de Dieu qui ne fait pas justice et qui finalement est profondément injuste. Parce qu'en effet, je crois qu'il y a un problème dans le fait de proposer un Dieu si gentil, en quelque sorte, qui serait un peu comme une sorte de grand-père gâteau, parce que cela fait de Dieu un Dieu passif et un Dieu inactif. Or, je crois que Dieu est plus qu'une entité sympathique dans nos vies. Dieu est aussi un Dieu qui agit, c'est un Dieu à l'œuvre, c'est un Dieu qui fait quelque chose. Et si Dieu nous aime, alors il s'engage pour nous dans le monde et il agit. Et dans l'inaction, on peut encore se permettre de dire que l'on aime tout le monde. Mais quand on agit, il faut bien se poser la question de la justice, de ce que l'on fait, de ce que l'on va faire ou de ne pas faire. Il faut faire des choix et prendre ses propres responsabilités. Or, l'amour, effectivement, conduit nécessairement à la justice. Parce qu'on ne peut pas penser que si Dieu nous aime, qu'il ne fasse rien et qu'il laisse sans intervenir toutes les injustices dont nous puissions être les victimes. Si Dieu nous aime, il ne peut pas rester passif. Il faut qu'il aille, en quelque sorte, à la défense de celui qui est accablé. Si Dieu s'engage, il ne peut le faire qu'avec justice. Mais alors, comment peut-on faire le lien entre l'amour et la justice? La question a été traitée très longuement et de nombreuses manières par différents théologiens. La solution la plus célèbre a été proposée par un grand théologien au XIe siècle, qui était saint Anselme de Canterbury, dans un livre s'appelant « Le Cur Deus Homo », c'est-à-dire « Pourquoi Dieu s'est fait homme ?». Et il a élaboré à ce moment-là une théorie qui s'appelle la théorie de la satisfaction vicaire et qui est très décriée aujourd'hui, qui consistait à essayer de voir comment l'on peut associer la miséricorde et la justice, et qui essayait de voir que, bien que Dieu pardonne à tout le monde, ce pardon ne peut être qu'en accomplissant aussi une sorte d'exigence de justice. Et Anselme avait compris, je crois, assez justement, que l'on ne pouvait pas croire dans un amour de Dieu total et efficace si cet amour était injuste. Alors sa solution, c'est la suivante. Très résumé, ça lui donne un aspect un peu caricatural, mais néanmoins c'est à peu près ça. C'est que elle dit que Dieu veut pardonner le péché des hommes, d'accord, parce qu'il est miséricordieux. Mais l'exigence de la justice voudrait que le pécheur paye ses péchés par sa propre mort, en quelque sorte. Et là arrive le Christ qui accepte de payer pour nous. Il paye à notre place de sa vie. Et donc le Christ offre sa vie comme un sacrifice offert à Dieu. Il souffre à notre place de la peine qui devrait nous être imposée par l'exigence de justice, que le pécheur doive mourir. Et comme le prix est payé, Dieu peut pardonner. Cela s'appelle la théorie du sacrifice vicaire, parce que vicaire, en latin, ça voulait dire celui qui remplace, ou de la satisfaction vicaire, parce que le Christ satisfait à notre place l'exigence infinie de justice qui est en Dieu, en mourant à notre place. Cette théorie est absolument inacceptable pour la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. En effet, on ne comprend pas comment Dieu pourrait exiger la mort sanglante de son propre fils et la mort d'un innocent pour nous pardonner. C'est absolument inacceptable. Et aujourd'hui, même les catholiques ont abandonné cette théorie qui pourtant a eu une grande importance. Et il n'y a plus que les traditionalistes catholiques qui regrettent que depuis Vatican II, on ait abandonné cette thèse du sacrifice vicaire et qui continuent à vouloir la prôner. Et quant aux protestants, eh bien, nous ne le prêchons pas. Mais finalement, dans l'esprit de combien de fidèles ne reste-t-il pas cette idée que le Christ est mort pour nos péchés? Ou que la mort du Christ, d'une façon rétributive, est un sacrifice offert à Dieu pour que Dieu nous pardonne. Et donc, dans l'esprit de beaucoup de fidèles, depuis saint Anselme, on a l'idée, finalement, que la mort du Christ est une sorte de prix payé pour permettre, de rançon payée pour permettre notre pardon. Alors, tout cela est effectivement inacceptable, je crois, pour nous, parce que je crois que Dieu n'a pas besoin de la mort du Christ pour nous sauver. Dieu nous sauve parce qu'il nous aime, et puis c'est tout. Mais néanmoins, il ne faut pas juger trop vite. Et je me méfie toujours des grands coups de crayon où on raye d'un coup 1000 ans de théologie, parce que, d'abord, j'aime beaucoup saint Anselme de Canterbury, au point que j'ai donné son nom avec ma femme au premier de nos enfants. Et d'autre part, je crois que Anselme n'était pas un imbécile et que ses objections que nous voyons, il y avait bien pensé et que par conséquent, il ne faut pas sous-estimer son propos. Parce que, en fait, il y a aussi d'autres objections plus graves. En effet, certes, il y a quelque chose d'injuste, mais que néanmoins, cette thèse de la satisfaction vicaire ne résout pas la question de la justice, apparemment. Parce qu'en effet, on arrive dans une situation encore plus injuste. Anselme prétend par cette solution montrer un Dieu qui aime en étant juste, mais finalement c'est encore pire, puisque on rajoute une injustice à une injustice. Non seulement le pécheur n'est pas puni, mais c'est en plus un innocent qui est châtié et puni à la place de l'autre. C'est absolument inacceptable. Si c'est ça la justice de Dieu, il y a de quoi s'arracher les cheveux de la tête. C'est absolument incroyable, cette histoire. C'est l'innocent qui est puni et le coupable qui s'en sort sans rien. Et d'autre part, ça ne fonctionne pas, cette histoire. Parce que le pécheur, il aurait dû normalement payer son péché au prix de sa vie éternelle, pas de sa vie physique. Alors que là, le Christ ne fait que de mourir physiquement à cause du péché. Et par conséquent, je ne comprends pas comment on a pu dire que la mort du Christ physique pouvait remplacer la mort spirituelle et éternelle qui nous était normalement promise. On remplace une chose par une autre qui n'est pas de même nature. Donc tout cela ne va pas du tout. Mais comme je crois que Anselme n'était pas un imbécile, je pense que néanmoins cette théorie peut nous dire quand même des choses essentielles, et que, en fait, il y a dans cette théorie d'Anselme quelque chose qui veut nous montrer que c'est dans la mort du Christ que se trouve la clé de la manière avec laquelle s'entrelacent en Dieu les notions de justice et de miséricorde, et que c'est là que se joue cette question-là, et que c'est en regardant la mort du Christ que l'on peut comprendre comment Dieu peut être à la fois un Dieu juste et un Dieu bon. Et du coup, je veux même assumer, je dirais, les apparentes contradictions de la théorie d'Anselme. Parce que si on regarde ça, on peut en tirer plusieurs conséquences. La première, c'est que le mal a toujours nécessairement des conséquences. Quand Anselme dit « il fallait bien que le pécheur paye d'une façon ou d'une autre », ce n'est pas Dieu qui l'exige, mais je crois que c'est le cours même du monde. C'est comme ça. La définition du mal, c'est que ça fait du mal. La définition du mal pour la Bible, c'est que ça a des conséquences funestes. Pour on ne sait pas qui, pas forcément pour celui qui fait le mal d'ailleurs, ou pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, le mal par définition est ce qui fait du mal. Et ça, personne n'y peut rien, ce n'est pas Dieu qui l'exige, mais c'est comme ça. Et ce que nous apprenons là par la mort du Christ, c'est que le mal que nous faisons, il n'a pas forcément de conséquences pour nous-mêmes. Et ça, c'est vrai. Souvent, nous faisons du mal et nous restons absolument merveilleusement impunis. Ce mal fait du mal à d'autres, mais pas à nous. Eh bien, ça, c'est vrai, c'est comme ça. Ce n'est pas forcément Dieu qui l'a voulu, mais c'est comme ça. Et je dois le savoir. Et cette thèse nous apprend aussi que même si ce mal ne nous fait pas de mal à nous-mêmes, eh bien, finalement, le premier blessé là-dedans, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est le principe même de la vie. C'est Dieu lui-même en tant qu'il est l'essence même du bien, de la vie et de l'amour. Mais, nous dit cette théorie, Dieu accepte, lui, de ne pas nous punir. Et là, il y a là quelque chose d'essentiel dans cette thèse. C'est que Dieu, effectivement, accepte de ne pas punir le pécheur ou de ne pas nous faire payer notre faute. Définitivement, Dieu ne fait pas payer le pécheur. C'est une preuve d'amour, effectivement. Dieu ne donne que le bien, et Dieu accepte que, bien que nous fassions des erreurs et des fautes, Dieu accepte que nous ne payions pas forcément la note de notre faute. Et il la paye pour nous, en quelque sorte. Alors là, pour comprendre ça, il faut le comprendre dans le sens d'une christologie très forte. Parce que je pense que pour Anselme, le Christ n'était pas simplement le Fils de Dieu, c'était en quelque sorte Dieu lui-même. Et donc il n'était pas question de dire Dieu envoie son propre fils au sacrifice, mais c'est Dieu lui-même qui paye la note et qui prend sur lui finalement l'offense en acceptant que nous ne souffrions pas. Dieu en quelque sorte souffre quand il y a du mal sur la terre, bien sûr, parce que Dieu voudrait qu'il n'y ait que du bien. Donc quand il y a du mal et de l'injustice sur terre, c'est Dieu qui souffre. Et chaque fois qu'il y a un enfant bafoué, une justice bafouée, c'est Dieu lui-même qui souffre et qui est bafoué. Et ça, c'est vrai. Mais Dieu accepte de ne pas nous faire porter le poids de nos fautes parce que, il soulève le couvercle de la marmite pour nous laisser notre chance de pouvoir vivre et peut-être nous convertir. L'autre leçon de cette mort du Christ, c'est que oui, le monde est fondamentalement injuste. Et ça, je le crois. Et c'est ce qui apparaît dans cette satisfaction vicaire de Jésus, mais c'est peut-être pas un défaut, c'est comme ça. Le monde est injuste. Et il est vrai qu'il n'y a pas dans ce monde de justice immanente. Ce n'est pas forcément le pécheur qui paye, ce n'est pas forcément le coupable qui pâtit de sa faute ou de sa méchanceté. Et nous ne devons pas attendre dans ce monde de rétribution, ni contre le mal, ni pour le bien. Et même celui qui est victime, eh bien, il est victime. Et ce n'est pas sur cette terre que Dieu va rétribuer. Et ainsi, cela ne se passe pas comme dans le livre de Job, où Job, après de nombreuses épreuves, est rétabli dans tout ce qu'il possédait, etc. Et c'est plutôt comme dans le psaume 49, au verset 16, qui dit « Ne crains pas l'injuste et le méchant qui s'enrichit, parce que c'est comme ça. » Oui, sur terre, le méchant et l'injuste s'enrichit. Et peut-être qu'il s'enrichira jusqu'à sa mort. Et certainement que les gens, il y a beaucoup parmi les gens les plus riches, de vrais voleurs. Et quand on dit « bien mal acquis ne profite jamais », je crois que ça n'est pas vrai. Et qu'il y a beaucoup de bien mal acquis qui profitent beaucoup à ceux qui les ont. Eh bien, il faut le savoir. C'est important de le savoir. Et c'est important de l'accepter. C'est que s'il y a une justice, elle n'est pas de ce monde. Ou alors nous faisons ce que nous pouvons humainement pour cela. Mais en tout cas, Dieu lui-même ne gère pas la justice de ce monde. Alors néanmoins, Dieu ne reste quand même pas sans rien faire. Parce que, tout à l'heure je l'ai bien dit, la mort du Christ n'est qu'une mort physique. Or le Christ lui-même a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire d'autre. Craignez plutôt ceux qui peuvent tuer l'âme. Et par conséquent, Dieu, nous l'avions vu à Pâques, Ne laisse pas le Christ voir la corruption ou la mort, puisque Dieu va ressusciter le Christ, spirituellement bien sûr, c'est-à-dire que Dieu va offrir au Christ la vie éternelle et un destin finalement spirituel et invisible bien plus important. Parce qu'en effet, nous pouvons voir grâce à cette affaire que le mal terrestre n'a que des conséquences purement terrestres. Et donc c'est injuste, mais finalement ça n'est pas très grave, puisque ça n'est injuste que dans ce monde-là. Et que le mal terrestre n'a que des conséquences terrestres, mais n'a aucune conséquence sur la question de notre salut et de notre éternité. Dieu sauve le Christ, Dieu va lui donner la vie éternelle, Dieu va en fait le restituer spirituellement dans un autre monde, mais en même temps, il laisse le pécheur en paix. C'est assez étonnant comme attitude. Alors pour nous, cela est important parce que quand nous sommes sujets à de l'injustice, ce qui arrive souvent, soit par la volonté des hommes, soit parce qu'il nous arrive des malheurs que nous n'avons pas mérités, eh bien quand nous sommes sujets à de l'injustice, cette théorie de la mort du Christ, je crois, nous apprend beaucoup de choses. Peut-être que le premier point, c'est que si nous avons l'impression de souffrir injustement, nous devons nous souvenir que le Christ lui-même a souffert aussi très injustement, et qu'il en est mort d'ailleurs, en passant. Et par conséquent, ces injustices qui nous font souffrir, voire qui nous tuent, d'une certaine manière, nous rapproche du Christ. Et alors nous pouvons regarder le Christ et dire, mais finalement, je suis très proche de lui, et il est très proche de moi. Et le Christ, lui, a accepté cela, avec une certaine patience, une certaine tendresse, une certaine bonne volonté, un certain amour. Et il a pris sur lui, je dirais. Et il en est mort, mais il avait cette confiance que Dieu ne le laisserait pas pourrir dans la mort, mais qu'il y avait justement autre chose que cette injustice physique, humaine, terrestre et matérielle, parce que Dieu le sauvait en quelque sorte dans son amour. L'autre point, c'est que quand nous sommes nous-mêmes, nous avons l'impression de souffrir d'une injustice. Le sacrifice vicaire doit nous rappeler tout le temps que dans le fond, il y a aussi un autre type d'injustice, c'est que nous sommes pécheurs et que depuis longtemps, nous aurions dû payer cher beaucoup de nos fautes et que finalement, il y a aussi une autre injustice qui est non plus à nos dépens cette fois, mais au contraire, en notre faveur. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que parfois, par exemple, on dit « Ah, les enfants, ils ont un sens de la justice très développé. » Ben, je n'en suis pas persuadé. Pour vivre toute la journée avec mes propres enfants, je peux vous dire que les enfants ont un sens de la justice dans le sens que ça les arrange. Et lorsque, si vous donnez une double part à l'un, c'est pas lui qui va se plaindre. Ça ne le dérangera absolument pas d'avoir le double des autres. Ça le dérangera si c'est lui qui a deux fois moins. Et donc, ce n'est pas vrai, ce sens de la justice qui est chez les enfants est faux. Et chez nous, c'est pareil. Si, par exemple, on vous met une amende pour excès de vitesse, au lieu de rouler à 130, et vous rouliez à 120. Vous allez dire, mais je suis sûr que vous allez faire des scandales, des procès, vous allez faire tous les médias dans tous les sens pour dire c'est injuste, on m'a mis un excès de vitesse alors que je roulais 10 km/h moins fort que la limite, c'est une injustice insupportable. Mais vous oubliez toutes les fois où vous rouliez à 140 et où on ne vous a pas mis d'amende. Et là, ça vous semble sans problème. Pourtant, c'est le même type d'injustice. Il est tout à fait injuste que celui qui transgresse ne soit pas puni. Et la seule fois où l'injustice est dans un sens qui est à vos dépens, vous criez au scandale. Et je pense que cette petite parabole doit nous rappeler que nous avons toujours un petit peu tendance à nous scandaliser de l'injustice quand elle est à nos dépens et nous oublions que finalement il y a beaucoup d'injustices dont nous profitons tout simplement. Oui, il y a beaucoup d'injustices dont nous profitons. Alors, un peu dans un sens, un peu dans l'autre, beaucoup dans un sens, un peu dans l'autre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, essayons de ne pas toujours voir les choses dans le même sens et peut-être simplement disons-nous que ce monde est injuste et que c'est comme ça. Par conséquent, ce monde est injuste. Nous sommes dans un monde injuste. C'est comme ça, mais acceptons-le dans un sens, comme nous sommes prêts à l'accepter aussi dans l'autre. Et puis, enfin, Dieu, troisième point, Dieu ne punit pas le pécheur. C'est vrai qu'il n'y a pas de peine éternelle. Dieu ne punit pas le pécheur, donc c'est vrai que c'est injuste, mais je pense que s'il y a une justice en Dieu, elle ne se trouve pas dans le fait qu'il punisse le pécheur. Par conséquent, dans tous les cas, si l'on veut attribuer de la justice en Dieu, sachons que Dieu a résolu une fois pour toutes que sa justice soit uniquement, j'allais dire, de récompense, mais pas de punition. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi pécheur, parce que je suis pécheur, et donc Dieu ne me condamne pas et ne me punit pas. Mais par contre, Dieu sauve la victime. Alors comment ? Dieu ne laisse pas son Christ voir la corruption ni la mort, dit le psaume 16. Je pense en effet que Dieu sauve ce qui en nous est christique, ce qui en nous est de l'ordre, de ce qui en nous est enfant de Dieu, en quelque sorte. La part de nous-mêmes qui est restée fidèle et dévouée, la part de nous-mêmes qui a accepté avec patience et avec amour le sort injuste qui nous a été imposé, comme le Christ l'a accepté. C'est cette part de nous-mêmes, cette part christique en nous-mêmes, que Dieu sauve. Et parce que le Christ lui-même l'a fait, Et on voit dans cette épître de Paul en Romains au chapitre 5, cette chose assez amusante où Paul dit que l'épreuve produit pour nous une succession de choses comme la patience, et que la patience produit une, je ne sais plus quoi, l'espérance en fin de chaîne, et finalement l'amour. Je pense en effet que ce qui est essentiel dans notre vie, ce n'est pas tellement que nous ayons de la chance ou de la malchance d'un point de vue terrestre, mais les seules choses essentielles de notre vie, les fleurs qui poussent dans notre vie et que Dieu garde pour l'éternité, ce qui donne sens à notre vie, c'est justement l'amour que nous avons vécu. C'est la patience, la bonne volonté avec laquelle peut-être nous avons supporté la souffrance ou les injustices. Et c'est ça les choses, je pense, essentielles. C'est que Dieu garde en mémoire, dans sa mémoire éternelle, le meilleur de nous-mêmes. Et par conséquent, il y a une forme de rétribution. Certainement, Dieu oublie le pécheur. Il ne le condamne pas, mais il l'oublie. Il est perdu, aux oubliettes. C'est un porc, et il meurt comme un porc. Par contre, Dieu garde l'amour, la bonté, le service, la paix, le don de soi-même. C'est ça qui est sauvé pour l'éternité. Et c'est ça qu'il y avait infiniment dans le Christ. Et parmi ces trésors de l'humanité, je crois qu'il y a aussi la patience dont nous faisons preuve dans les difficultés et dans le mal. Et il y a aussi cet amour que nous avons, non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de ce qui nous arrive. Et que cet amour qui nous sauve est aussi un amour vis-à-vis de la vie. C'est une façon de ne pas chercher à lutter contre l'injustice, contre le mal, contre la mort, contre la souffrance, mais de dire « oui, je l'accepte et j'aime la vie comme elle est, avec le bien comme avec le mal, et j'arrête de me battre ». Et comme le Christ est mort, j'allais dire sans se battre, il a dit oui. Une sorte d'acceptation qui n'est pas une résignation, mais qui est une acceptation active de la vie. Et c'est une forme, je crois, de l'amour, et c'est une forme aussi de l'espérance, parce que je crois que cette injustice qui me frappe, finalement, ne me touche pas vraiment. Et elle passe à côté de moi, en quelque sorte. Supporter l'injustice est une preuve d'amour. Et si je suis victime, alors je peux me réjouir, par amour aussi peut-être, que d'autres soient bénéficiaires d'une autre forme d'injustice. C'est accepter la vie comme le Christ a prouvé son amour pour nous en souffrant à notre place. Et je crois que Dieu est juste parce que finalement, comme dit la sagesse populaire, le méchant, il ne l'emportera pas au paradis. Et je crois que c'est assez vrai. Le mal n'est qu'un mal temporaire et passager, alors que la patience et le pardon sont des vertus éternelles. Le méchant périra oublié par Dieu, alors que le juste est moissonné dans les greniers de Dieu. Et ainsi, je crois que l'amour et la miséricorde de Dieu ne sont compréhensibles que, d'une certaine façon, dans la justice. C'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est pas une faiblesse, mais c'est une volonté, c'est un principe. L'amour et le pardon, la miséricorde de Dieu, ne sont pas des complaisances par rapport au mal, mais c'est un système, c'est une volonté et c'est au contraire une force. Peut-être parce que Dieu croit que l'amour actif et réaliste est la plus efficace des attitudes et la plus créative des attitudes dans ce monde. Et je pense que ce projet d'Anselme de dire « l'amour s'accomplit dans la justice de Dieu » ou de dire « c'est de la justice de Dieu que découle l'amour » où Luther a essayé de dire la même chose d'ailleurs, que c'est de l'amour de Dieu que découle sa justice, est une chose absolument essentielle. Parce que la justice de Dieu, je pourrais dire, c'est de pardonner. Mais le pardon, ce n'est pas l'oubli. Le pardon, c'est, comme dit ce passage de l'Écriture, ce Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais qui lui pardonne. Ou de dire, comme Luther, que Dieu regarde l'homme comme étant pécheur et pardonné. C'est le fait qu'il soit pardonné n'oublie pas le fait qu'il soit ou qu'il ait été pécheur. Mais simplement, il y a là une sorte de volonté de Dieu qui sait très bien ce qui est juste et ce qui est injuste. mais qui choisit de transcender la justice par l'amour et de faire sa propre justice en justement par l'amour. Et cet amour et la justice de Dieu consistent, je crois, à pointer du doigt le mal, à haïr le péché, mais à pardonner le pécheur. Consiste à ne pas punir le pécheur, mais à le laisser à lui-même, en quelque sorte, et consiste à sauver celui qui aime, et à sauver peut-être la victime, et à sauver celui qui est juste et qui accepte ce pardon. Et là où cet amour est essentiel, c'est que justement il n'est pas une faiblesse, mais il est la façon même avec laquelle Dieu fait sa justice, et il nous invite aussi à faire de même. C'est donc le principe de justice de Dieu qui est celui de la miséricorde. C'est pourquoi le Christ lui-même nous dira « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. » Amen.